Nous sommes lundi le 29 octobre. Déjà, mon nom est Claude Blas. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. À quelques deux jours, hein, je vous le rappelle, de la fête de l'Halloween, déjà où nous retrouvons nos tout-petits sur la route déguisés. Alors, vaut mieux en être informé d'avance. Alors, soyez prudents mercredi prochain quand vous les verrez défiler à travers les différents secteurs. Nouveau concept, on aura plusieurs textes. On retrouve autour de la table aussi. Ce matin, ça fait longtemps... Trois collaborateurs différents quand même. Et nous allons débuter tout de suite avec Mme Diane Pilote. Comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Et ça prend le parapluie?
Oui, effectivement, ce matin, oui.
Et c'est frisqué.
Oui, on aurait aimé mieux de la neige,
c'est
par exemple,
terminé, en tout cas, dans mon cas. Le beau temps est derrière nous.
Ah oui?
Mais Serge arrive de croisière, donc lui profite du soleil.
Il va sûrement nous en parler tantôt. Oui. Alors, vos sujets ce matin sont lesquels?
Je parle d'une chronique de Normand Baillargeon qui nous parle de tout ensemble, désobéissance civile, philosophie, musique, sens de la vie, rapport à la nature. C'est beau, hein?
C'est bien, ça.
Accompagné d'une petite musique de Richard Séguin, évidemment.
Ah oui,
on accompagne. Et j'aurai aussi Émilie Dubreuil qui nous parle de ce que ma mère disait, tourner sa langue cette fois avant de parler. Ben, elle dit qu'on ne devrait pas faire ça.
Ah non?
Non.
Ah, quand même
non.
Étonnant.
C'est surprenant.
C'est surprenant. La voix que vous entendez, c'est M. Roger.
Oui,
comment
bonjour Claude. Oui, ça va très bien, oui.
Passez un beau week-end.
Très bien, oui. Il faut être optimiste. C'est pas vraiment de la pluie, c'est de la bruine. Je ne peux pas vous contredire, Diane.
Merci quand même. Et quand on va arriver à Serge, ça va être le soleil. Ça va être le soleil. Alors, allez-y.
Je vous ai préparé quelques petits sujets pour aujourd'hui. Nos LED mal aimés. Oui, mais ce sont les écoles.
Je pensais que c'était les lumières.
Aussi, un autre texte qui s'appelle « Un soldat sans fusil ».
Ah!
Ça, c'est spécial. Hein? Mm-hmm. Ouais. Aller à la guerre sans fusil.
En fait, on parlait, voilà quelques temps, des policiers sans armes.
Oui,
maintenant,
c'est ça.
On parle des soldats sans fusil.
Non, c'est vrai, c'est pas une obsession, mais c'est vrai que ça fait trois fois que j'en parle.
Oui, tout à fait. Monsieur Hamelin,
oui.
Comment allez-vous?
Ah, de mieux en mieux, de jour en jour, et ça à tout point de vue dans tous les domaines de ma vie.
Ah oui?
Ah, et jusqu'à la mort qui sera la libération. Amen. Alors, est-ce que vous voulez me reposer la question?
Oui, allez-y avec vos sujets.
OK. Alors, moi, je suis dans la revue Protégez-vous. Et êtes-vous vraiment écolo? 5 gestes verts décortiqués. Je ne vous décortiquerai pas les 5 gestes ce matin. Ah, c'est de plus en plus complexe.
Ouais.
Aimez-vous le café?
Oh, ben, naturellement, oui.
Hein?
Oui.
Avez-vous pris votre café ce matin?
Oui.
Je suis déjà rendu au troisième.
L'avez-vous pris filtre ou avec une dosette?
Je l'ai pris dans une tasse.
Eh bien, j'ai un petit article pour vous. À la recherche de la tasse parfaite.
Voilà.
Ah, il s'est rendu compliqué, complexifié. L'écologie, ça n'a plus... Oh, Seigneur. Alors, je vous laisse aller. Allez-y, parce que là, on n'en finira plus.
D'accord, on vous revient dans quelques instants avec un premier texte, et ce sera Roger. Oui. Alors, apparemment, on peut retrouver des soldats sans fusil. Roger.
Oui, c'est ça. Alors, vous savez que le 11 novembre approche, le jour du souvenir, le coquelicot, ça commence à se répandre. Alors, habituellement, on a toujours un article dans les magazines sur les anciens combattants, qui, ceux de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre et la Guerre de Corée, commencent à être assez âgés. Là. Ce matin, je vous parle de quelqu'un qui a fait la Guerre de Corée, et le titre que donne Stéphanie Verge à son texte, c'est « Soldats sans fusil ». Il s'agit d'Alphonse Pelletier, qui a 88 ans aujourd'hui. Il est originaire de Trois-Pistoles. Il était orphelin à 12 ans. Et à l'âge de 16 ans, Alphonse a commencé à faire des petits travaux, travaillait à être cuisinier, travaillait un peu partout, là où il le pouvait. Et il avait passé un certain temps à l'orphelinat. Il trouvait qu'il y avait une camaraderie qu'il ne retrouvait pas là où il était. Il errait. Et il a dit, il me semblait que dans la vie, on a besoin d'appartenir à un groupe. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée. Alors, pour lui, c'était aussi simple que ça. Alors, il s'est joint au 22e régiment. C'est tout à fait ça. En peu de temps, le jeune homme svelte reçoit le sobriquet affectueux de Tipère en raison de ses manières sérieuses et de son peu d'inclination pour l'alcool et le jeu. Le jour de la solde, avant de se mettre à boire ou à jouer aux cartes, ses compagnons lui confient chacun 20 $. Sirotant tranquillement un soda, Alphonse garde cet argent jusqu'au matin, puis le leur remet discrètement. « J'avais une bonne réputation, j'avais des amis, dit-il. M'engager m'avait fait énormément de bien. » Membre du 1er bataillon du 22e, Alphonse s'entraîne comme parachutiste et obtient son brevet en juin 1950. On le charge d'enseigner les mêmes techniques aux recrues avant de l'envoyer à Vancouver, suivre une nouvelle formation, puis à Seattle, où un bateau doit le mener en Corée avec sa cohorte en 1952. À mesure que l'heure du départ approche, Alphonse devient soucieux. « J'ai commencé à beaucoup réfléchir. Se servir d'une arme pour atteindre une cible est une chose, ce n'est pas un problème. » Mais viser et tirer sur une personne, la tuer, c'est très différent. Il commence par confier ses inquiétudes à ses frères d'armes qui l'aiment bien et le respectent. Son problème moral semble sincère, mais ils connaissent aussi le prix qu'il faudra payer. Refuser de suivre les ordres, c'est la prison assurée. Alphonse, qui ne l'ignore pas, sait aussi qu'il ne pourra pas indéfiniment dissimuler ses convictions à ses supérieurs. Ses supérieurs ont tenté de le convaincre, tant de... à plusieurs reprises, de se rendre au front et évidemment d'utiliser ses armes s'il le faut, s'il y a des combats. Finalement, il a réussi à trouver une arme compatissante, c'est le commandant lieutenant-colonel Louis Frémont Trudeau, qui lui dit « Tu ne veux pas tuer, ça a l'air sincère ta préoccupation, on va te nommer brancardier ». Alors, il accomplit son année de service en Corée, transportant des blessés et des morts du front jusqu'aux tentes médicales. Ce sont des expériences inoubliables par leur horreur, mais il a toujours évité d'en parler. Ça arrive souvent chez les militaires. Ils ne veulent pas parler de leur expérience. Il dit qu'il a toujours été discret, avec un doux sourire. Mais il finit par parler d'une expérience ou deux, comme celle-ci. Il dit qu'il y avait dans son bataillon un jeune spécialiste, un signaleur, qui jouait à la roulette russe pour combattre le stress et l'ennui de la vie en zone de combat. Un jour, la balle s'est retrouvée dans la mauvaise chambre et Alphonse a été appelé pour ramasser son corps. Alors, c'est là qu'il en rencontre quelques-unes des anecdotes quand même là, sur le champ de bataille. C'est pas évident d'aller chercher des soldats décédés, là. Et à Sherbrooke, maintenant, il y a un album souvenir de l'année qu'Alphonse a passé en Asie. Resté à l'écart pendant des années, cet album est maintenant rangé dans une bibliothèque. On y trouve des photos de la vie au front, d'enfants coréens timides et de jeunes soldats souriants, à peine sortis de l'enfance eux-mêmes. Alors, c'est son histoire à lui. Il a réussi à aller faire son service militaire en Corée sans tirer une balle.
Quand même.
C'était plus facile. C'est plus facile quand on est objecteur de conscience, quand le service est obligatoire.
Ouais.
Mais si on s'engage volontairement dans l'armée, évidemment, il faut prendre le fusil quand il le faut.
Mais c'était quand même pas, ou peut-être pas aussi facile d'être brancardier non plus.
Non, c'est sûr.
Effectivement, c'est ça.
Alors, c'est dans la sélection de Reader's Digest du mois d'octobre. Novembre, si je ne l'ai pas dit.
Si je peux me permettre, pour ceux qui sont intéressés, il y a une magnifique exposition. C'est dans une galerie, je vais vous trouver l'adresse sur la rue Saint-Laurent.
Ouais.
C'est un homme qui a transformé des machines à écrire en mitraillettes. Il a utilisé les pièces des machines à écrire pour en faire des mitraillettes en disant que les mots sont aussi forts que les armes.
C'est bien.
Je vais vous trouver l'adresse. C'est fascinant de voir ces mitraillettes en pièces de machines à écrire, de dactylo.
Tout à fait. On vous revient justement avec Diane dans quelques instants.
Mon texte.
Alors, Diane, premier sujet.
Oui.
On y va.
Bon, alors, je suis nouvelle, hein, fait que j'ai pas tellement minuté mes textes, mais je vais apprendre au fur et à mesure.
D'accord.
Je vais lire, c'est dans la revue Voir. C'est une chronique de Normand Baillargeon. Et Normand Baillargeon ne parle pas souvent de lui. Mais cette fois-ci, il nous raconte une tranche de vie. Il a été approché par Richard Séguin, qui a produit un disque sur la vie avec les mots de Thoreau. Donc, Richard Séguin, qui l'appelle en moins de 2 minutes pour saisir qu'il connaît Thoreau au moins aussi bien que Normand Baillargeon et qu'il n'a aucune question à me poser à son sujet. Il me demande plutôt d'aller en studio enregistrer quelques phrases sur une chanson de l'album qu'il m'annonce consacrée à Thoreau, philosophe, naturaliste et écrivain américain qui l'accompagne depuis 4 décennies. Donc, Séguin a commencé une extraordinaire mélodiste et auteur. Ce talent, joint à celui de l'équipe dont il s'est entouré, est ici mis au service de Taureau, dont il raconte, en de très beaux textes originaux qu'il signe, des épisodes de sa vie et de sa pensée. Il existe certes des albums concepts et il existe aussi des albums consacrés à des auteurs. Mais ce sont alors les auteurs qui fournissent les textes et il s'agit typiquement de poètes. Ici, on a un album concept qui est consacré à un philosophe et dont les textes sont signés par l'auteur-compositeur-interprète. Il n'était pas évident de réussir ce tour de force sans sombrer dans le didactisme ou la propagande. Donc, Séguin nous montre, en outre, toute l'actualité de la pensée de Taureau et invite celui-ci à la grande table de la conversation démocratique. Ce faisant, à sa manière, Séguin contribue à rendre la philosophie populaire, selon le beau mot de Diderot. Taureau fait partie de ce premier groupe de philosophes et écrivains que produisent les États-Unis. On les appellera les transcendentalistes. Ils sont basés à Concord, près de Boston. Durant un peu plus de 2 ans, Taureau ira vivre dans les bois, près de l'étang de Walden, non loin de Concord, dans une cabane qu'il a construite lui-même en vivant du travail de ses mains. Son ouvrage, Walden ou la vie dans les bois, raconte cet épisode de sa vie. C'est une belle et profonde méditation sur le sens de la vie et sur notre rapport à la nature et aux autres. Un de ses enseignements, selon moi, est que la cité, avec le C majuscule, institution économique et politique, ne peut être la seule mesure de toute chose et que la nature est une norme, une référence extérieure à elle, qu'on ne peut ignorer sans risque. À l'heure de la profonde et dramatique crise écologique que nous traversons, le propos de Taureau ne peut manquer de nous parler, d'autant plus qu'il aspire, dit-il, à vivre profondément de la simplicité. Simplicité, simplicité. Taureau, on l'aura deviné, est un des pères des idées de décroissance et de simplicité volontaire. À son époque, l'esclavage existe encore aux États-Unis et Taureau est un fervent abolitionniste. Jusqu'où aller pour affirmer ses convictions? Dans les cas extrêmes, sur un sujet de grande importance et lorsque les moyens usuels ne suffisent pas, tout particulièrement quand la loi est injuste et qu'on ne peut la changer par eux, Taureau suggère, en inventant le concept, que l'on pourra avoir recours à la désobéissance civile. C'est le titre de l'ouvrage qu'il publie en 1848 pour expliquer son refus de payer ses impôts, qui servirait à mener une guerre injuste contre le Mexique et à appliquer la Fugitive Slave Law. L'idée fera son chemin et elle inspirera notamment Gandhi, Martin Luther King Jr. et le mouvement des droits civiques, Rosa Parks et bien d'autres. Vous vous souvenez de cette phrase qu'aimait citer Michel Chartrand? Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l'homme juste est aussi en prison. Elle est de Taureau, cette phrase. Donc, merci Richard Séguin pour ce grand disque qui, en plus de donner de la joie et de procurer tant de doux frissons, nous fera méditer et enrichira notre grande conversation démocratique sur des enjeux importants. Et nous avons quelques extraits de ce disque de Richard Séguin.
La soif et le désir. la page blanche, je vais écrire, vivre profondément. Je m'en vais, vivre dans moi. Je m'en vais, vivre dans moi. Le présent est un être qui a faim. Soif de vivre. Le présent est un être qui a faim, faim de soif de vivre. Je m'en vais vivre dans le bois. Je m'en vais vivre dans le bois.
Issu de l'album Retour à Walden, Richard Séguin sur les pas de Taureau, comme Diane nous en parlait précédemment, c'était la pièce Dans les bois.
J'adore Richard Séguin, grand auteur, grand compositeur, c'est vrai.
Ouais, au Québec quand même. Serge?
Oui, ben adorer, c'est un bien grand mot. Hein.
Oui, c'est
tu
vrai.
Tu n'adoreras que... qu'un.
Hein. Ben j'aime bien dans ce cas-là.
Oui, ben moi aussi j'aime bien le café. Hein.
Il faut faire. Oui, c'est...
surtout c'est que sujet... je dois en parler ce matin.
Ah, c'est le sujet que vous nous parlez.
Alors, oui. Et je remercie beaucoup la revue Protégez-vous, d'ailleurs, qui me renseigne sur un tas de sujets. Quelle laveuse acheter, quel aspirateur acheter, tout. Et maintenant, quel café acheter, hein? Qui est le moins dommageable? Parce que ce mois-ci, dans la revue Protégez-vous, c'est êtes-vous vraiment écologique, écolo? Hein? Êtes-vous vraiment écolo? Ah. Et dites-moi. Devant une dosette, des petites capsules, là, et devant une cafetière filtre, laquelle penseriez-vous qu'elle est moins dommageable pour l'environnement? On chiale sur les capsules, ça n'a pas de bon sens.
Ouais, je
devant
sais que les capsules,
le
ouais.
filtre, devant le café filtre, la cafetière filtre ou la dosette, laquelle?
Ben, je sais que la dosette, ça ne se recycle pas dans tous les cas.
Hey, c'est quelque chose. Les capsules de café sont-elles un désastre écologique? Mm-hmm. Oui.
Oh, je sais pas. C'est ce que je
pense. Mais.
Mais?
Ah oui, je vais vous dire la suite tantôt, moi. Alors, les amateurs de caféine sont de plus en plus nombreux à adopter les cafetières à capsules. Et selon l'Association canadienne du café, plus d'un Canadien sur trois détient désormais une machine à dosette, une hausse de 140 % depuis 2012. Et cette révolution dans l'industrie et dans la façon de consommer le café s'est réalisée au détriment de l'environnement, déplore nombre d'experts et de consommateurs. C'est un chef-d'œuvre de marketing, mais une aberration environnementale, fulmine Sylvain Allard, directeur du programme de baccalauréat en design graphique de l'UQAM, hein, c'est pas n'importe qui, dont les travaux portent sur les effets des emballages sur l'environnement. Les détracteurs de la dosette reprochent à celle-ci de consommer inutilement des ressources et de l'énergie lors de sa fabrication, de grossir les dépotoirs et d'être difficilement recyclable quand elle est recyclée. Alors, des députés de l'Ontario et de la Colombie-Britannique sont allés jusqu'à réclamer que les capsules jetables soient tout simplement bannies à moins d'être compostables. Et même l'inventeur de la dosette, saviez-vous c'était qui ça, l'inventeur de la dosette?
C'est M. Dosette, non?
Non.
C'est de la dosette Keycrop de Curing, John Sylvan. a avoué regretter l'avoir mise sur le marché. Ce n'est pas comme si c'était difficile de faire du café, a-t-il ironisé lors d'une entrevue accordée en 2015 au magazine The Atlantic. Et parmi les ennemis des mini-contenants, la ville de Hambourg en Allemagne, qui en a interdit l'utilisation en 2016 dans ses bureaux municipaux, et aussi des entrepreneurs néo-écossais qui ont lancé en 2015 la campagne Kill the Keacup, afin de dénoncer les conséquences pour la planète du café encapsulé de Keurig. Eh bien, voilà pour... Maintenant, les vertus de la capsule versus le café-filtre. Qu'elles soient recyclées ou non, les capsules de café sont peut-être moins dommageables pour l'environnement que vous le croyez. Avancent notamment des études américaines, suisses et canadiennes. Les utiliser serait même plus écologique que de se servir d'une cafetière filtre, concluait en 2015 un rapport de Cantis Canada, un cabinet conseil. Oui. Eh bien, imaginez-vous, les émissions de gaz à effet de serre générées par la production, la torréfaction et la mouture des grains, la fabrication des sacs de café, des filtres, des dosettes et des boîtes dans lesquelles ils sont emballés, leur transport par camion, l'énergie utilisée par les cafetières filtres et à capsules, l'eau pour les laver et les déchets générés, tout cela a été scruté à la loupe par les chercheurs montréalais de Cantis. Et même maintenant, pour acquis que les dosettes prennent majoritairement 81% le chemin des sites d'enfouissement, ils ont statué que le café encapsulé produit 198 grammes de CO2 par tasse contre 330 grammes pour le café filtre.
Et là 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 là!
Hein?
Toute une nouvelle ce matin.
Franchement, là?
Ouais.
Alors, ça il va pas bien, là.
Sans compter les coûts, 90 $ le kilo dans dosette pour le café.
En plus,
ce sont les coûts calculés, 90 $ le kilo.
Vous êtes bouche bée, vous, hein? Ah, moi, je sais plus quelle bouche j'ai.
On va passer à tout ça pendant la petite pause. Je vous reviens avec un texte sur la fibromyalgie. Dans le Reader's Digest, en fait, la sélection du Reader's Digest, côté santé, eh bien, j'ai retrouvé un petit texte sur la fibromyalgie qui est décrypté. C'est un papier de Samantha Readout. Elle dit « Toujours mal comprise, mais enfin étudiée sérieusement, la fibromyalgie désigne un ensemble de symptômes. Elle touche quelque 2 à 3 % des adultes dans le monde quand même. Son principal symptôme est une douleur diffuse dans le corps, souvent qualifiée de sourde, constante et sans cause apparente. Elle peut s'accompagner de raideurs musculaires, de maux de tête, de durcissement cérébral et de fatigue surtout. Elle est en général diagnostiquée au mi-temps de la vie, donc à peu près aux alentours entre 30 et 40 ans, ou peut-être un peu plus, mais les premiers symptômes peuvent se manifester plus tôt. En moyenne, le diagnostic prend plus de 2 ans. Il n'existe pas de test de dépistage, mais le médecin peut en demander pour écarter d'autres pathologies. L'origine de la fibromyalgie est encore incertaine. Pour beaucoup, ce serait un trouble du système nerveux central, un dérèglement de l'interprétation par le cerveau des signaux de douleur. Le rôle possible des hormones ou des irrégularités du sommeil fait aussi l'objet de recherches. Étant donné que de nombreux patients ne montrent pas ou montrent peu de signes de douleur, certains médecins se contentent de dire que c'est dans la tête. Ben oui, cette interprétation tend à disparaître à mesure que la maladie est mieux connue. Beaucoup d'autorités médicales, dont l'Organisation mondiale de la santé, la reconnaissent aujourd'hui. Malheureusement, on ne sait pas comment la soigner. Les traitements ne servent qu'à en soulager les symptômes. On invite aussi les patients à privilégier les remèdes non pharmaceutiques et à ne prendre des médicaments, entre autres des relaxants musculaires, des analgésiques, que si les premiers échouent. Donc, si les premiers médicaments échouent. À ce jour, une activité physique progressive semble la manière la plus efficace d'atténuer la douleur. On commence au niveau qui convient parfois très bas, puis on augmente l'intensité au niveau de l'exercice physique, explique la docteure Gary McFarlane. auteur principal des recommandations sur le traitement de la fibromyalgie de la Ligue européenne contre le rhumatisme. L'exercice soulage la grande majorité des patients, peut-être parce qu'il stimule la sécrétion d'endorphines, réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et accroît l'irrigation sanguine des muscles. On recourt parfois à la thérapie cognito-comportementale pour aider à supporter la douleur. Elle apprend à rester calme, mais active. Mais lors des mauvais jours, c'est encore pire. Ces traitements ne font pas de miracle. Ils procurent au mieux une amélioration modérée. Il faut vraiment mieux comprendre cette maladie pour fournir de meilleurs soins aux patients, conclut le docteur McFarlane. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé dans le Reader's Digest et je peux vous en parler parce que ma femme, elle est prise avec la fibromyalgie. Alors, elle a tous ses symptômes d'ailleurs. Voilà. Alors, première demi-heure de l'émission déjà terminée. Pardon?
Ça passe vite.
Ah, ça passe très vite avec quelques petits articles. J'espère que vous aimez le nouveau concept. On y va avec peut-être un peu plus de musique aussi et quelques articles qui vous sont lus un peu plus rapidement, mais qui donnent tout le sens du texte, en fait. Alors, on vous dit, restez là, parce que la deuxième demi-heure s'en vient dans quelques instants avec nos trois collaborateurs, Diane, Roger et Serge. Deuxième partie de l'émission, on va faire un autre petit tour de table. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Les Voix de service, magazine Diane. Quel sujet en deuxième partie?
Tu peux pas dire ça.
Non?
Non.
Pourquoi?
C'est ça mon texte.
OK. Monsieur Roy, à votre tour.
Quand les mégadonnées aident la police. Je suis, je suis dans la police aujourd'hui, moi.
Ben oui, et dans les armes, dans la police. Serge, deuxième sujet?
Deuxième sujet, c'est après avoir choisi votre dosette ou le café-filtre, là. Quelle tasse allez-vous prendre?
D'accord.
Aïe, aïe.
Avec une paille.
Et j'aurais peut-être un petit texte. Oui, c'est ça. Et j'aurais peut-être un petit texte pour vous. Si on a le temps, dans quelques instants, on arrive avec Diane. Alors, qu'est-ce que je peux pas dire, Diane?
C'est Émilie Dubreuil, dans la revue Voir, qui nous parle de salon funéraire. Mm. Dans un salon funéraire, il y a quelques années, un vieil ami vient de mourir, des photos de lui, de sa famille défilent sur le mur blanc, des fleurs partout, des propos fleuris, tout le monde est ému. Il est toujours absurde d'être confronté au grand départ de quelqu'un. Après les accolades d'usage, les « comment vas-tu? » »« Mon Dieu que ça fait longtemps », les éloges se tarissent, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un dit « c'est un bon vivant », cliché ridicule, qui dans la vie n'est pas un bon vivant? La vacuité de cette déclaration a dû déclencher quelque chose, parce qu'un vieux chum du défunt, à ce moment-là, a brisé la glace. Moi, je ne le voyais plus déjà depuis 2 ans. On a été super proches, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne m'écoutait jamais, qu'il ne me demandait même pas comment moi j'allais, que c'était un être totalement narcissique. Il y a eu comme un silence gêné. Tu peux pas dire ça. Peut-on dire ces choses-là? Peut-on être critique quand quelqu'un est dans une boîte en bois? Le silence n'a pas duré longtemps. Il nous avait, ce vieux chum, donné la permission étonnante d'arrêter cette pantomime irrévérencieuse. Nous nous sommes mis à parler pour de vrai. Ça aide quand ça pique, mais bon Dieu qu'on a peur d'utiliser le papier sablé, même le plus mince. La rugosité d'un papier sablé fin peut procurer bien des plus de bien aux surfaces que le contact poisseux d'une débarbouillade de couleur pastel. Hier, je mangeais avec des collègues de travail. J'étais en colère contre un truc et m'exprimais ouvertement sur ma frustration. Ma voisine de table m'a arrêté dans mon discours péremptoire et sévère. « Tu peux pas dire ça. » Ce que tu peux dire, par contre, c'est « Dans mon ressenti, j'ai l'impression ou la façon dont moi je l'ai ressenti. » Et reconnaître que tu n'es pas d'accord avec le résultat. Tu ne peux pas juger puisque ce n'est pas toi. Bref, dans mon ressenti, donc, je suis souvent en tabarnak. Devant le manque de gros bon sens et des petitesses et des mesquineries, les injustices, les incohérences, les raisonnements sans envergure qui se déclinent aussi bien au nominatif, au vocatif qu'à l'accusatif, au génitif, au datif et à l'ablatif. C'est drôle, on n'a jamais autant dit ce qu'on pense sur les fenêtres virtuelles de nos vies et pourtant, j'ai jamais autant entendu « mais tu peux pas dire ça ». Dommage, parce que j'aimerais bien qu'on puisse le plus souvent dire les choses, même si elles sont dures. Tout dire, sauf des conneries. Surtout que maintenant, je connais le truc. Comment dit-on « dans mon ressenti » en latin, déjà? Voilà, c'était Émilie Dubreuil dans Le Voir.
Merci beaucoup, Diane. Dans quelques instants, ce sera au tour de Roger. On y va avec Roger qui est dans le monde depuis les dernières semaines, des armes, des policiers.
Oui, les forces policières, tout ça. Bon. Maxime Johnson nous écrit un texte dans l'actualité du mois d'octobre où il jette un coup d'œil sur les algorithmes et la police. Quand les mégadonnées aident la police, c'est du profilage en réalité. Différents systèmes de prévision policière, aussi appelés systèmes de maintien de l'ordre prédictif, existe depuis une dizaine d'années aux États-Unis. À Los Angeles, la police utilise un logiciel qui tient compte surtout du temps et de la géographie. En analysant les pillages de domiciles survenus dans un secteur, par exemple, les algorithmes peuvent alerter les agents sur le fait que le risque de récidive sera accru 3 semaines après un crime, mais uniquement en soirée. C'est une technologie qui met en application plusieurs concepts connus en criminologie, explique Rémi Boivin, qui est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Comme il le répète souvent dans ses cours, la meilleure manière de savoir où sera la criminalité l'an prochain est de regarder où elle est cette année. C'est ce que fait d'une façon systématique la prévision policière qui repose sur les lieux, les endroits. Les policiers de Chicago, eux, utilisent un autre système basé sur les données concernant les personnes. Près de 400 000 résidents ayant un casier judiciaire sont répertoriés dans la Strategic Subjects List. Un algorithme donne à chacun une note sur 500 en fonction de 8 critères, dont le nombre d'arrestations, l'âge, s'ils ont eux-mêmes été victimes d'un crime ou pas. Ceux dotés d'une note élevée risquent de perpétrer plus de crimes, selon le système, et doivent donc s'attendre à des visites de la police et à un traitement différent lors d'une arrestation, par exemple. Les mégadonnées commencent à être utilisées par certains corps policiers canadiens, notamment à Edmonton et à Vancouver, mais pas au Québec. À la sécurité publique, on dit connaître cette approche, mais ne pas s'être penché expressément sur la question. Ce retard technologique est pour l'instant une bonne nouvelle. Les mégadonnées ont le potentiel d'améliorer le travail des policiers, mais elles comportent aussi des risques importants. La prévision policière qui repose sur les personnes est particulièrement problématique, estime Andrew G. Ferguson, professeur de droit à l'Université du district de Columbia. Si vous êtes répertorié à Chicago, la police peut venir frapper à votre porte. C'est une mesure de contrôle social et de surveillance, a-t-il dit à l'actualité. Les données utilisées par les algorithmes peuvent aussi être tendancieuses lorsqu'une communauté ethnique précise est surveillée de près par les agents, par exemple. Ces préjugés peuvent être amplifiés par les systèmes informatiques. À l'heure actuelle, les programmes de prévision policière sont des expériences sur le terrain et ce sont les populations déjà victimes de profilage qui risquent d'en faire les frais. Un travail d'analyse éthique et criminologique important devrait être réalisé avant de déployer cette technologie à grande échelle. Alors, il faut se méfier. Hein? Il y a des endroits où on utilise, pour les lieux, savoir où vont se commettre les crimes et quand ils vont se commettre. Mais il y a d'autres systèmes qui ciblent les individus. Alors, on fait, semble-t-il, du profilage. Mais ce n'est pas semble-t-il, on fait du profilage.
On fait du profilage.
Et on peut cibler, évidemment, certains groupes si on veut le faire. Alors, il y a des dangers à ça. C'est le progrès, c'est toujours pareil.
Ouais.
Il y a du pour, puis il y a du contre.
Et voilà. Des anciennes méthodes, il faut les garder de temps en temps.
Oui, ben c'est ça. Ça, c'est Maxime Johnson qui nous en parlait dans l'actualité du mois de novembre.
Merci beaucoup, Roger. S'en va à une pause musicale. Et tout de suite après, Serge nous parlera de tasses de café.
Errata.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu ses propos. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. Et d'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. Hey, t'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé du tronc, on a quitté du tronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. Est-ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal. Au hasard. Oh mais je te le redis, Jean Marcel, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est pauvre. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Toujours aimé, mais je te le redis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal.
On vient d'entendre la regrettée Morane qui reprenait le regretté Brel avec la pièce, bien sûr, Vesoul. Cette grande pièce, c'est incontournable. C'est de l'album Brel de Morane qui vient de paraître avec entièrement des reprises de Jacques Brel.
Ah, d'accord. Merci beaucoup, Serge. Les oui. tasses à café.
Alors, je vous vois devant votre cafetière filtre, devant votre dosette, et là, vous hésitez. Hein? Eh bien, les autres cafetières existent aussi. OK. Alors, il y a la cafetière Espresso et la Bodum qui pourrait, si vous utilisez l'eau exacte, parce que la cafetière Espresso utilise l'eau qu'il faut pour la tasse de café. Donc, il n'y a pas de perte d'eau là-dedans. Okay. Puis, la cafetière à piston de type Bodum est aussi une bonne option. Et quant à la machine à espresso, ben, elle utilise juste la bonne quantité de café sans les résidus de la dosette, dit Sylvain Allard. Dans tous les cas, utilisez le moins d'eau possible pour nettoyer votre appareil. C'est le problème de l'eau, ça a l'air. Et compostez le marc de café avec le filtre de papier, puisqu'il est un bon engrais. Puis si vous tenez à votre capsule, là, à votre café en capsule, ben, il y a des versions compostables qui commencent à faire leur apparition et plusieurs entreprises offrent aussi des capsules réutilisables compatibles avec les différents modèles de cafetières offertes sur le marché. Il suffit de les recharger manuellement à chaque utilisation et c'est une solution écologique étant donné que vous préparez la dose de café exacte sans générer de déchets. Ça va? Maintenant, il faut boire le café. Ça devient compliqué, cette histoire-là.
C'est la base.
Hein? Oh, 1,6% des cafés servis dans les Starbucks en 2015 ont été versés dans une tasse de type thermos. La tasse réutilisable est-elle plus verte que le gobelet jetable? Oui.
Ah.
Oui, à condition de l'utiliser plus qu'une fois.
Elle n'est pas jetable.
C'est mieux de ne pas l'acheter après l'utiliser. Après la paille et le sac de plastique, est-ce au tour du gobelet de café jetable d'être mis au rancard? Et dans la foulée du boycottage grandissant du plastique à usage unique, des pays ont décidé de s'attaquer aussi à la tasse en carton. En carton doublé de plastique qui se trouve par millions dans les sites d'enfouissement. C'est incroyable quand même. Hein? En Allemagne, la ville de Fribourg, en Brisgau, a lancé en 2016 une tasse réutilisable offerte dans une centaine de cafés. Et les clients paient une consigne d'environ $1,50 pour le gobelet de plastique sans bisphénol A ou le BPA qu'ils peuvent retourner afin qu'il soit réutilisé jusqu'à 400 fois. C'est bon? Et des députés britanniques ont pour leur part récemment proposé de taxer les tasses de café jetables et d'utiliser l'argent pour en améliorer le recyclage. Et les gobelets qu'utilisent les grandes chaînes comme Tim Hortons, Starbucks et McDonald's sont faits de papier doublé de polyéthylène, un enduit de plastique, tandis que les couvercles sont en polystyrène plastique numéro 6. Deux matières. Et au Québec, ne sont recyclés que dans quelques rares municipalités. Néanmoins, le gobelet jetable est-il moins néfaste pour l'environnement que sa version réutilisable si l'on prend en compte son cycle de vie complet? Et tout dépend, ben, c'est ça, du nombre de fois que vous employez vos tasses réutilisables. Et c'est vraiment le comportement de l'utilisateur qui détermine ce qui est un bon choix ou pas, explique Jean-François Ménard, analyste au CIREG. Et voilà ce qui ressort d'une étude mandatée par Recyc Québec et réalisée en 2014 par le CIREG, lequel a comparé le cycle de vie d'un gobelet jetable, d'une tasse en céramique fournie par le restaurateur et d'une tasse de voyage apportée par le consommateur au café du coin. Sans surprise, l'étude révèle que la tasse en céramique du restaurateur est plus avantageuse pour l'environnement que le gobelet à usage unique, à condition d'être utilisé plus de combien de fois? Plus de... Qui va dire un chiffre?
400 fois.
Pas pire, vous?
2000 fois.
Et vous?
J'aurais 1000.
Eh bien, plus de 210 fois.
Oh, ah, c'est tout.
Seulement.
Bravo, Roger.
C'est bon? Bravo. Alors, généralement, vous gagnez un café, vous. Alors, généralement, le produit réutilisable va être fait de plus de matière que le produit jetable. Plus on l'utilise, plus on amortit l'énergie et les ressources nécessaires à sa fabrication. Mm. Vous me suivez? Mm-hmm. C'est formidable. Alors, poursuis Jean-François Ménard. Toujours selon l'étude, le grand avantage de la tasse en céramique est qu'elle est lavée au lave-vaisselle industriel, ah, qui nécessite peu d'eau et de savon. C'est ça le problème, c'est le lavage. Mm-hmm. OK? Et c'est pour cette raison qu'elle représente aussi une meilleure option pour le gobelet de type thermos que vous faites remplir par le barista et que vous lavez à la main. Mais s'il vous plaît, pas à l'eau chaude. Pas de savon, très peu. Faut laver à l'eau froide, utiliser juste un petit peu d'eau froide, parce que si on met trop d'eau, c'est là que le problème arrive, c'est qu'on gaspille.
D'accord.
Alors, si dans le cadre de la tâche de table, le lavage, oui, c'est terminé.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Roger a dissimulé sa bouteille d'eau.
Ben oui.
Plastique sous la table.
Ouais, ben ici, c'est toujours la même bouteille qu'il a chaque semaine.
Oui, je la remplis ici.
Ben oui, la remplis.
Ben. OK, s'il vous plaît, on arrête les reproches. Merci. Je vous reviens avec un texte sur la vérité sur le vaccin contre la grippe. La vérité sur le vaccin contre la grippe, est-ce qu'il faut se faire piquer contre la grippe? Est-ce qu'il ne faut pas se faire piquer contre la grippe? Bien, c'est un petit article qui nous le dit peut-être, vous en jugerez par vous-même. C'est des spécialistes qui s'attaquent aux idées reçues sur cette fameuse immunisation là, et qui sauve des vies, apparemment. Apparemment. Et on dit, vous n'en avez pas besoin puisque vous l'avez reçu l'an dernier, c'est une question. Eh bien, les virus grippaux mutent sans arrêt. Et il n'est pas rare que de nouvelles souches apparaissent au cours de l'année, dit Caroline Sullivan, infirmière et enseignante de soins infirmiers à l'Université Columbia de New York. Des études ont prouvé que l'immunisation acquise par contagion ou vaccination diminue avec le temps. Autre question, vous avez déjà attrapé la grippe cette année, donc le vaccin est inutile, vous pensez? Est-ce bien une grippe, d'après vous? Beaucoup d'autres virus provoquent des symptômes grippaux, note Ali Mileski, infirmier dans un hôpital new-yorkais. Et même si c'en était une, l'avoir attrapée ne vous protège pas contre les autres souches en circulation. La saison de la grippe, maintenant, est trop avancée pour que ça en vaille la peine, d'après vous? Ben, elle peut commencer dès octobre et se terminer seulement en mai. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le vaccin fin janvier ou début février, il reste quand même recommandé. Il existe deux types de vaccins antigrippaux, ceux avec des virus inactivés, donc non contagieux, et ceux sans virus. Quelques personnes réagissent au vaccin par un peu de fièvre et de légères douleurs musculaires, mais ces réactions durent un jour ou deux et sont bien moins graves que les symptômes en tant que tels de la grippe. Vous ne pourrez pas vous entraîner ce jour-là. Si vous vous faites piquer, ben faire du sport avant ou après l'injection peut stimuler la production d'anticorps, imaginez. Dans une expérience limitée menée à l'Université d'État de l'Iowa, des étudiants qui avaient fait de la course ou du vélo pendant 90 minutes après avoir été vaccinés ont produit presque deux fois plus d'anticorps que ceux qui ne s'étaient pas entraînés du tout. On dit qu'à votre âge, on ne se fait plus vacciner, vous pensez? Eh bien non, au contraire, la vaccination est cruciale au-delà de 65 ans, car les risques de complications d'une grippe sont très importants. Selon des estimations rapportées par les CDC, ces dernières années, de 17 à 85 des décès et de 54 à 70 des hospitalisations causées par la grippe sont survenues dans cette tranche d'âge. Interrogez votre médecin sur les deux vaccins destinés aux 65 ans et plus. Le vaccin antigrippal à haute dose comporte quatre fois plus d'antigènes que le vaccin courant. Lors d'un essai clinique comparatif, le taux d'infection après son administration est inférieur à 24 % à celui du vaccin courant. Quant au vaccin avec adjuvant, il provoque une réaction immunitaire plus forte. Une étude a révélé que son efficacité dépassait de 63 % celle du vaccin ordinaire. La piqûre fait mal, c'est ça qui vous fait peur? Ben, étonnamment, c'est un gros problème, même chez les adultes. Un sondage a révélé que 23 % d'entre eux ne se font pas vacciner par peur de l'aiguille. Cette petite piqûre peut pourtant vous épargner les tourments d'une grippe, alors tentez simplement de ne pas en amplifier la douleur. Quand on se crispe, c'est pire, dit Amy Baxter, médecin à Atlanta. Essayez de détendre le bras et concentrez-vous sur votre respiration. Facile à dire, hein, quand même.
Elle est longue de combien de centimètres, cette aiguille?
Cette aiguille, dépendamment si vous avez peur ou non. En fait, on l'a choisi en fonction de votre peur. On s'en va à une pause musicale et après, on vous revient avec quelques brèves.
Chercher monsieur le curé pour qu'il vienne prier pour lui.
D'entendre Yves Lambert accompagné de Linda Talley, Mon mari est bien malade.
Merci. On a quand même le temps pour une légère brève, Diane.
Je vais faire mon mea culpa. L'exposition sur les mitraillettes et les machines à écrire, elle est terminée. Mais allez sur le site de Eric Nado, N-A-D-O. Allez voir ce qu'il fait.
Parfait.
En bref, le chemin de la montagne dans le cœur des bibliothécaires. L'album jeunesse pour 3 à 6 ans, Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, a su gagner le cœur des bibliothèques de Montréal. L'histoire de la vieille Madame Blaireau, qui monte chaque semaine au sommet de la montagne et qui entraînera le petit Lulu dans sa balade, lui faisant découvrir la nature, a remporté le prix du livre jeunesse 2018 des Bibliothèques de Montréal.
Ah.
Le jury de 5 bibliothécaires a salué la mise en scène subtile de la poésie du quotidien, de cette ode à la nature sensible et remplie d'humanité. Une bourse de 500 $ accompagne le prix.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout pour l'émission. J'aimerais remercier Jean-Sébastien Laliberté, qui est à la technique comme à toutes les semaines et qui fait un travail vraiment colossal. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Diane Pilote.
Ça me fait plaisir.
Alors, on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, Roger Roy.
Oui, bonjour.
On vous souhaite une excellente semaine. Et Serge Hamelin.
Bonjour, Serge.
Oui. Bonne semaine à vous aussi.
Ah ben oui.
Merci beaucoup. Et pour moi, c'est ma dernière émission, mais restez à l'écoute quand même du canal M. Pour les prochaines semaines, vous allez retrouver vos trois collaborateurs de temps en temps, en fait. Hein.
D'accord.
Pas tout le temps, mais de temps en temps.
Ce n'est que nous.
Je vous rappelle qu'il faut aller sur le site internet canalm.vusezvoix.com pour avoir la programmation complète et rester à l'écoute. Dans quelques instants, il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui suit avec Hélène Denis. Je vous souhaite une excellente semaine.